48 FM Le Mag. Culture,
logement,
environnement,
cuisine, gastronomie.
48 FM.
Emploi, développement économique,
vie associative,
tourisme,
rubrique pratique.
48 FM Le Mag.
Sport, nature, TIC,
citoyenneté,
patrimoine. Eh bien le bonjour à tout le monde, nous voilà repartis pour un nouveau mag, un 58e mag de 48FM et un mag spécial car aujourd'hui nous terminons notre série sur l'éducation avec la nouvelle loi de refondation de l'école, une troisième émission pour établir un bilan à mi-saison, évoquer ce qui a marché, les difficultés rencontrées par les personnes ayant mis en place cette réforme. Nous entendrons également des témoignages de parents, d'enfants. Nous allons aussi nous intéresser à ceux qui mettent en place cette réforme, notamment sur les rythmes scolaires qui sont obligatoires l'an prochain. Alors autour de cette table, tout d'abord, nous avons Nico qui va m'accompagner aujourd'hui. Bonjour Nico.
Bonjour à tous.
Nous avons également la directrice d'académie de la Lozère, l'inspectrice d'académie de la Lozère. Voilà, le terme a changé dernièrement, j'allais la faire, c'était sûr. Madame Caroline Lombardi-Pasquier, bonjour.
Bonjour.
Pour évoquer concrètement la mise en place des nouveaux rythmes scolaires, Françoise Coudert, responsable du service à la population à la ville de Mende, qui a travaillé en amont sur cette réforme, mais aussi bien entendu pendant, avec les ajustements qui ont été nécessaires. Un appui technique pour cette émission. Bonjour.
Bonjour.
Il est au plus près des élèves car il est enseignant. Il s'agit de Yann Louveau, instituteur à l'école maternelle des Chênes, qui va pouvoir témoigner sur ses 6 premiers mois. Bonjour.
Bonjour.
Et nous allons également évoquer l'avenir avec Rémi André, maire de Montrodat, et Brigitte Buisson, directrice de l'école publique de Chanac, qui vont mettre en place cette réforme l'an prochain. Bonjour à vous deux. Bonjour.
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 Voilà, l'an prochain, cette réforme qui va être obligatoire pour tout le monde en 2014. Et pendant cette émission, nous allons évoquer cette réforme, enfin du moins essayer de manière journalistique, c'est-à-dire de manière neutre, pour savoir comment elle s'est mise en place, ce qui a marché, ce qui a changé, ce qu'il faut changer. Et peut-être, Nico, déjà rappeler à nos auditeurs la base de cette réforme. Pourquoi le ministre de l'Éducation, Vincent Payon, a décidé de promulguer cette loi de refondation de l'école ?
Oui, tout à fait. Donc, c'est bien que tu aies fait ce petit postulat. En même temps, il faut dire aussi aux auditeurs qu'on a une étape où on n'a que 6 mois d'expérimentation. Donc, que c'est compliqué, qu'il n'y a que 4 villes dans le département qui sont parties sur cette partie de la réforme. la réforme des rythmes scolaires. Alors, pourquoi le ministre Vincent Payon a décidé de mettre en place cette réforme et cette refondation du système scolaire? D'abord parce qu'il y a effectivement le constat d'un échec de ce système. Depuis quelques années, on sait qu'il y a beaucoup d'enfants qui sortent sans bagage et qui ne trouvent pas après de débouchés. Donc là, il y a un vrai souci.
Il y a une enquête également qui était sortie, dont on avait parlé dans la première émission avec vous, Madame Lombardi-Pasquier, au niveau européen, des difficultés rencontrées par les élèves scolarisés en France.
Oui, et puis récemment aussi, la dernière enquête européenne, là, qui n'est pas du tout bonne pour la France. En même temps, bon, il faut relativiser tout ça, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on évalue, comment, à quel moment. Bon, là, c'était sur les élèves de 6e, je crois.
C'est 15 ans, PISA.
Non, PISA, c'était 4e, 3e, je crois que c'est ça. Hein. Donc, c'est... bon. C'est à recontextualiser. Nous, on va plutôt parler du parcours d'un enfant qui se joue beaucoup dans les premières années. Hein. On sait que l'école primaire est un lieu des apprentissages fondamentaux et aussi celui où les premiers retards peuvent apparaître. Notamment, on sait la classe de CP qui est une classe fondamentale. Bon, on sait qu'à l'entrée du collège, par exemple, 15% des élèves connaissent des difficultés importantes. Donc ça, il faut le redire. Avant la réforme aussi, 20% des écoliers avaient accès à des activités sportives, culturelles ou de loisirs. Donc, un enfant sur 5, ce qui est quand même très très peu. Moi, quand j'ai lu ces chiffres, j'étais plutôt sur la base de 2,5 enfants ou 3 enfants sur 5 qui avaient des activités périscolaires. Or, ce n'est pas du tout le cas. On est vraiment sur une partie extrêmement pauvre sur les activités périscolaires. Avec cette réforme, l'objectif, c'est d'atteindre au moins 80% des écoliers qui y participent, donc qui ont une découverte d'activités périéducatives. Donc, quelles que soient les ressources sociales ou financières, enfin, quelles que soient les origines sociales et financières des familles, les enfants peuvent accéder à des activités artistiques, sportives, éducatives, linguistiques, etc. Donc ça, c'est quand même assez important. Redire aussi qu'avant la mise en place de la semaine de 4 jours en 2008, les écoliers français avaient le nombre de jours d'école le plus faible des 34 pays de l'OCDE. À savoir 144 jours d'école sur 365 jours, contre en moyenne 187 jours sur la communauté européenne. Le retour à la semaine de 4 jours et demi permet de mieux répartir les heures de classe sur la semaine, d'alléger la journée de classe de 45 minutes en moyenne. Donc c'est la journée de temps éducatif, bien sûr, pas la longueur de la journée puisqu'elle reste la même. Voilà, et de programmer les enseignements fondamentaux à des moments peut-être un peu plus opportuns, notamment le mercredi matin. Alors, le nombre de jours donc passe de 144 à 180 jours par an. Il n'y a pas diminution du nombre d'heures d'enseignement, on reste sur 24 heures par semaine et sur 36 matinées de plus pour apprendre.
Voilà ça en gros. C'est ça, c'est à peu près 5h30 d'enseignement obligatoire par jour, pas plus de 3h30 par demi-journée maintenant avec cette réforme, et ils bénéficient, ces élèves, d'une pause méridienne d'au moins 1h30. Donc voilà, ça c'est pour poser ce postulat de départ de cette loi de la refondation de l'école. On va peut-être écouter des témoignages d'enfants pris à la sortie de l'école, juste pour savoir quelles activités ils ont pu faire pour l'instant pendant ces 6 premiers mois.
Ben moi, depuis le début de l'année, le lundi je suis en train de faire gym et le jeudi je suis en train de faire le web TV. Et avant j'avais fait le jeudi j'avais fait guitare.
Ben moi là le lundi je fais jeu d'échecs et après avant je faisais gym le lundi et le jeudi je faisais hip hop.
Alors moi, en début d'année, j'avais fait de la capoeira, puis j'ai fait de la bibliothèque.
Moi, au début de l'année, je faisais boxe, après j'ai fait capoeira.
En activité, ben moi j'ai fait, depuis ici le lundi, j'ai fait gym psychomotricité. Et jeudi avant, je sais plus ce que je faisais.
Moi, j'avais fait en premier la capoeira. C'est une danse de combat. Après, j'avais fait de la gym. Maintenant, je fais du web TV.
À 4h30 le mardi, dans l'école, je fais du théâtre occitan. Et hors de l'école, le samedi, pendant une heure, je fais du théâtre. Enfin, c'est plutôt, j'ai commencé déjà hors de l'école. Et le théâtre occitan, après, j'ai commencé cette année dans l'école.
Voilà, ça c'est toute une série d'activités qui sont proposées sur la ville de Mende. On rappelle, en Lozère pour l'instant, 4 communes ont mis en place cette réforme des rythmes scolaires, Ispagnac, Vialas, Mende et Badarou. C'est ça, madame l'inspectrice d'académie ?
Oui, tout à fait. Et hier, j'étais à Ispagnac et j'ai vu des élèves faire une activité poterie et une activité expression théâtrale.
Voilà, peut-être pour les personnes qui vont mettre en place cette réforme, je pense à vous deux, voir toutes ces activités. Bon, bien sûr, c'est Mende, il y a des structures, il y a des animateurs, enfin de nombreux animateurs qui peuvent permettre différentes activités, une multitude. Ouais. Vous, quand vous entendez ça, ça vous donne envie, vous vous dites, mais nous aussi on va y arriver, on met en place ça. Comment vous ressentez ce témoignage-là ? Peut-être madame Buisson, pour commencer, l'école publique de Chanac.
Donc, je sais que la mairie fait appel à diverses associations sur Chanac, donc ils en sont là en ce moment, mais j'ai pas eu de... Pour l'instant, ils travaillent là-dessus. Donc voilà, parce qu'il y a quelques associations à Chanac. Mais le problème de ces associations-là, c'est qu'il y a beaucoup de bénévoles qui travaillent. Donc il va falloir... ces gens-là travaillent aux horaires. Donc ils vont voir un peu avec eux quelles possibilités il peut y avoir.
Alors peut-être dire aussi, François Scouder, donc, pour la ville de Mende, comment ça s'est mis en place en fait sur la ville ? Parce que là, on entendait les enfants qui disaient, moi le lundi, moi le jeudi, en fait, ils n'ont pas, pour les primaires, ils n'ont pas des activités tous les jours. Ce n'est pas 45 minutes par jour, du coup.
Non, ça a été un choix de la ville après consultation avec les conseils d'école. On a consulté l'année dernière, au mois de février, tous les conseils d'école des 7 écoles mendoises publiques, pour voir un peu quels étaient les desiderata des enseignants et des parents d'élèves. Au terme de ces consultations, on a opté pour que les enfants puissent bénéficier, que ce soit beaucoup plus profitable, que les enfants de primaire auraient 2 fois 1h30 par semaine.
Donc, ça permet aussi des déplacements, ça permet des choses comme ça.
Voilà, c'est-à-dire que le temps de l'activité est plus important. Plus long, ouais. Du coup, on peut effectivement se déplacer jusqu'à un gymnase ou jusqu'à un lieu différent de l'école pour pratiquer l'activité.
Voilà, ça c'est important, on y reviendra tout à l'heure, de bien dissocier l'école et les activités pluriscolaire. Monsieur le maire, concernant la ville de Mont-Roda, c'est compliqué de mettre en place cette réforme ?
Alors, c'est compliqué, oui, un petit peu, bien sûr, mais bon, on a commencé déjà depuis plusieurs mois à y réfléchir, en concertation avec les enseignants et les parents d'élèves, notamment lors d'un conseil d'école, et puis aussi avec les communes voisines. Parce que, pour nous, la difficulté, elle est à plusieurs niveaux. D'abord, il y a une difficulté financière, puisque bon, cette réforme va engendrer pour les communes des dépenses que nous n'avions pas jusqu'à présent. Ça, c'est un premier point. Bon, pour Mont-Roda, qui est une commune de 1200 habitants, avec aujourd'hui une école de 6 classes et 100 élèves, 101 depuis ce matin, voilà, on sait que cette réforme aura une incidence financière d'environ 12-13 000 euros.
Oui, oui, c'est ce qui est donné, entre 100 et 200 euros sur les communes.
Voilà, voilà. Bon, mais ce n'est pas la seule difficulté. Bon, nous avons déjà réfléchi et j'ai pris connaissance ce matin de la réponse de Madame l'inspectrice d'Académie sur les plages horaires que nous avons proposées et nous nous orientons sur Mont-Roda et sur des communes voisines avec lesquelles nous travaillons ensemble sur le même système que Amende apparemment, c'est-à-dire deux fois une heure et demie au lieu de quatre fois 45 minutes. Parce que il nous semblait que sur 45 minutes, il était à la fois difficile de trouver des intervenants et de mettre en place une activité, parce que 45 minutes, le temps de prise en charge, s'il y a un déplacement vers un terrain de sport, vers...
Ça réduit le temps d'activité, tout simplement.
Voilà, voilà, l'activité est tellement courte que les enfants ont peu de temps pour s'investir. Et ensuite, l'autre difficulté, c'est aussi pour nous de trouver des intervenants. Comme cela a été dit tout à l'heure, au niveau des associations, il ne nous semble pas judicieux ni possible de faire appel aux associations, puisque dans les associations, les gens sont des bénévoles qui travaillent au moment des horaires.
Il peut aussi y avoir des
temps d'activité. Hein. Voilà. Et nous, on s'oriente avec les communes voisines vers la recherche d'intervenants extérieurs.
D'accord. Et vous avez listé un petit peu le...
Nous avons commencé à lister les différentes possibilités. Puisque nous savons maintenant que nos plages horaires sont validées, on va maintenant s'attacher au contenu de ces activités que nous souhaitons mettre en place, puisque on souhaite vraiment aller dans le sens de la réforme et mettre en place des activités sportives, artistiques, culturelles. D'accord, on ne voudrait pas que ces temps d'activités périscolaires se transforment en garderie.
D'accord.
Et voilà, c'est la grande question qu'on se pose. Voilà. Oui. Nico ?
Oui, ça c'était un point très très important. C'est-à-dire que c'est sûr que si c'est pour refaire ce qui se faisait avant, ça n'a aucun bénéfice pour l'enfant.
Ça n'a aucun intérêt. Voilà. Donc nous allons tout faire pour le mettre en place. Et qui plus est, nous allons essayer de le mettre en place sans demander directement une participation financière aux familles. Parce que je crois que si on demandait une participation financière aux familles, c'est encore une fois les mêmes, c'est-à-dire les familles qui ont des revenus modestes, dont les enfants seraient écartés de ces activités. Et je crois que là, l'objectif serait vraiment, ne serait vraiment pas atteint. Donc on part dans cette idée-là, sur la commune de Mont-Roda, mais dans d'autres communes aussi avec qui nous en avons discuté, parce qu'il faut savoir que nous avons des réunions en communauté de communes où nous évoquons cela avec tous les maires concernés.
Mais est-ce que vous pensez que ce n'est pas justement sur les petites communes rurales, est-ce que ce n'est pas le moment de repenser l'école à l'échelon intercommunal, en tout cas en ce qui concerne le temps périscolaire.
Alors, en ce qui concerne le temps d'activité périscolaire, oui, je pense que vous avez raison. Ensuite, repenser l'école à l'échelon intercommunal, si c'est pour faire disparaître les quelques écoles qui restent dans les villages, vous comprendrez que les maires de ces villages-là ne vont pas être satisfaits du tout.
Et heureusement.
Et heureusement.
Merci. On reviendra sur la réforme des rythmes scolaires. Madame l'inspectrice d'académie, vous voulez dire un mot ?
Oui, simplement. Ce que je souhaitais dire, c'est que monsieur le maire de Montrodda a été le premier l'année dernière à m'interroger sur la possibilité d'organiser différemment les rythmes pour les enfants de maternelle et les enfants d'élémentaire. Et en cela, il a été précurseur par rapport aux préoccupations qu'a bien eues monsieur le ministre, puisqu'il y a eu des préconisations concernant les enfants de maternelle, puisqu'on se rendait bien compte que pour eux, il fallait être beaucoup plus souple et savoir articuler le temps périscolaire, la pause méridienne et le temps scolaire de façon réellement adaptée à l'âge et à l'évolution des enfants qui, en maternelle, nous préoccupent beaucoup plus.
Voilà, c'est un sujet important, c'est un sujet sensible, cette réforme, mais on va rester avec vous, madame l'inspectrice d'académie, car la refondation de l'école, ce n'est pas que les rythmes scolaires, ce n'est pas que ça, c'est toute une série de mesures, il y en a à peu près 25, on parle de la création de postes, de l'effort fait au niveau des remplacements, la charte sur la laïcité, l'évolution du contenu des enseignements aussi. Alors bon, on ne va pas rentrer dans le détail, mais est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu les grandes lignes de cette nouvelle loi de refondation de l'école ?
Oui, donc la priorité que le gouvernement a voulu donner à l'école se traduit par une priorité surtout d'ailleurs pour le premier degré. Et en ce qui concerne les moyens d'enseignement qui nous sont attribués, puisque nous faisons partie des ministères qui sont prioritaires dans le budget de l'État, la moitié de ces moyens sont consacrés à la nouvelle formation des maîtres. Donc la mise en place des écoles supérieures des métiers du professorat et de l'éducation, qui seront effectives à la rentrée scolaire prochaine, mais qui actuellement sont en train de se structurer. Et donc un travail...
Ça gardera le nom de l'IUFM, non ?
Pardon ?
Ça gardera le nom
de l'IUFM. Alors, faculté d'éducation... Ouais, il a changé
il a
sur le plan
changé.
Académique.
Non, mais c'est important de dire.
C'est donc bon, le site demande et donc n'est plus une antenne de l'IUFM, mais une antenne de l'École supérieure des métiers des professionnels de l'éducation, de la faculté d'éducation.
D'accord.
Voilà. Donc, nous accueillerons des professeurs des écoles stagiaires. Alors, l'année prochaine, ce qu'il y aura d'un peu particulier, c'est que nous aurons des professeurs d'école stagiaires « anciennes moutures », entre guillemets, ceux à qui, cette année, on a pu proposer un contrat pour exercer à tiers-temps, payer un mi-temps dans nos écoles. Donc, si une partie de ces personnes sera admise au contrat, cours de professeurs des écoles que nous appelons communément 2013-2, c'est-à-dire qu'ils ont passé les épreuves d'admissibilité en juin dernier et ils devraient être admis en fin d'année scolaire de 2014. Et nous aurons les nouveaux 2014, donc ceux qui seront professeurs des écoles stagiaires en faisant une année de formation sur le site sur les différents sites des facultés d'éducation. Dormantes, bien sûr, et eux seront rémunérés à temps plein pour exercer à mi-temps dans nos écoles, et leur restant du temps sera consacré à leur formation. Donc nous revenons à des enseignants qui seront pris en charge une année complète par l'éducation nationale, aussi bien dans leur classe que sur leur temps de formation.
C'était une réelle demande de la part des enseignants. Moi,
tout
je me rappelle
fait.
Quand la dernière réforme du précédent gouvernement était passée et qu'ils avaient quasiment une année de moins sur le terrain. Et, enfin, j'en ai...
Avant de prendre en tant que titulaire leur classe.
Voilà, exactement. Mmh. J'en ai vu très peu qui étaient contents de ne pas aller sur le terrain. Ils voulaient vraiment revenir à l'ancienne formule qui est celle actuellement qui est remise en place, c'est ça ?
Voilà. Auparavant, ce qu'on a continué, c'est que de toute façon, auparavant, ils étaient quand même préparés. Ils pouvaient faire des stages. Donc ça, cela va continuer. Mais il y aura en effet un moment d'admissibilité. Et ensuite, pendant un an, ils seront préparés au concours d'admission. Voilà. Bon, et donc, ils seront déjà mon fonctionnaire stagiaire de l'État. Donc la moitié des postes d'enseignants est consacrée à cette mise en place de nouvelles formations. Bon, ça, c'est quelque chose d'extrêmement important, en plus de la remise en place de la formation elle-même. Ce qu'il y a également autour de la loi de refondation de l'école, c'est en effet, vous le disiez précédemment, c'est pouvoir travailler contre cette inégalité des enfants selon les territoires. sur lesquels ils vivent et sur lesquels ils sont scolarisés. Donc actuellement également un gros chantier sur la refonte de l'éducation prioritaire en lien avec le ministère de la Ville. Et donc non seulement un travail sur la carte des établissements prioritaires, mais aussi un travail sur les conditions d'enseignement des enseignants qui sont dans les établissements les plus en difficulté, avec des coefficients de ponction qui permettront de leur libérer du temps pour le travail en équipe. Mais bon, nous avons la chance dans le département de la Lozère de ne pas avoir des territoires d'éducation prioritaire, mais c'est quand même bien à prendre en compte sur un plan global. Il y a également, en ce qui concerne les inégalités de territoire, tout un travail sur le parcours d'éducation artistique et culturelle. Donc, d'une part, le socle commun anciennement de connaissances et de compétences, maintenant est un socle commun de compétences, de connaissances et de culture. Et donc il y a un travail en lien avec le ministère de la Culture très important pour faire en sorte que tous les élèves aient accès.
Alors à ce titre-là, justement, oui, il y a un nouveau
parcours.
Voilà, je vous coupe juste pour dire qu'il y a un nouveau programme là qui va être lancé, qui s'appelle La Belle Saison, et qui est en lien avec l'éducation artistique. Donc c'est Madame Philippe Petit, la ministre de la Culture, qui a lancé ça avec Vincent Payon et Mme Fonderon, sur justement la mise en valeur de toutes les actions en faveur du jeune public qui seront un petit peu mises sur la sellette l'année prochaine, dès 2014, pour faire valoir un petit peu que l'éducation artistique, ce n'est pas seulement quelques ateliers de pratique dans les écoles, mais c'est beaucoup plus large que ça, et qu'il y a plein d'initiatives partout en France, et qu'on peut les utiliser, en tout cas se les approprier, qu'on soit élu ou qu'on soit enseignant, et que ça demandait d'une mise en valeur. Voilà.
Oui, tout à fait. Et donc, une notion de parcours d'éducation artistique et culturelle qui se construit aussi bien à l'école sur les temps scolaires, sur les activités périscolaires, et puis une possibilité d'activité extrascolaire également. Donc là, tout un travail que nous essayons de développer avec les associations, bien entendu, surtout dans le cadre du département, où on a un comité de pilotage à l'éducation artistique et culturelle qui est très actif, premier et second degré, également construire des parcours de l'élève qui soient interdegrés.
Une mesure qui nous intéresse également, c'est l'accompagnement des élèves handicapés qui est renforcé, notamment on l'a vu avec la classe CLIS sur Mende.
Oui, alors ça c'était un projet où bien avant la loi de refondation sur l'école, je souhaitais que nous soyons investis, puisque le département n'avait pas de classe d'intégration pour les élèves atteints de troubles envahissants du développement. Il faut reconnaître que depuis la mise en place de la loi de 2005, il y a eu un gros effort de fait par l'éducation nationale dans ce domaine. Là où il y a un effort significatif dans le cadre de la loi de refondation de l'école, c'est ce que nous appelons le terme barbare de CDIsation des accompagnants, c'est-à-dire que des personnes qui avaient un statut d'assistant d'éducation chargé d'accompagner la vie scolaire de ces enfants en situation de handicap, au bout de 6 ans de contrat d'assistant d'éducation, se voient proposer un contrat du indéterminée.
Avec une formation ?
Avec une formation.
D'accord.
Puisque nous avons souvent été pointés du doigt comme
oui,
ce qui était le comble dans l'éducation nationale. Mais il est difficile pour l'éducation nationale de former à l'accompagnement du handicap qui est un métier que nous avons voulu, bien entendu, nous avons voulu faire rentrer des accompagnants dans l'école. Et il faut qu'on soit très vigilant à la façon dont ils travaillent également avec les maîtres, pas seulement la façon dont ils travaillent avec les élèves. Et c'est un nouveau métier. Et il est vrai qu'il nous a souvent été compliqué de parfaire la formation. Mais donc, il y a des crédits également qui nous sont dévolus, enfin pas au niveau départemental mais académique, et il y a un plan de formation qui va être proposé, qui est déjà proposé et qui va continuer à être renforcé, et surtout
avec des professionnels de ce milieu-là, non ?
Tout à fait, et puis surtout un suivi très important de la formation qu'aura ces personnels.
Est-ce que vous n'avez pas l'impression, là, quand je vous entends donner toutes ces informations, que l'école est devenue l'affaire de tous? C'est-à-dire qu'on voit bien que cette ouverture de l'école qui peut plaire ou déplaire, c'est vrai que c'est des changements, des bouleversements de rythme, à la fois pour les enseignants, pour les parents, pour les enfants, d'intégrer aussi les enfants handicapés, même si, vous le rappelez, c'était depuis 2005, mais que ça ne suffisait pas. Mmh. Est-ce qu'il n'y a pas le sentiment aujourd'hui qu'il faut qu'en France, on réforme notre façon de travailler, de penser, d'intégrer? Est-ce qu'on n'est pas en train de le faire, là, actuellement ?
Il est clair que l'école est très vigilante en ce moment à s'ouvrir aux autres partenaires, à ses partenaires. Bon, on voit le travail sur les rythmes avec les collectivités territoriales, le travail sur les TIS également, dans lesquelles toutes les collectivités, les communes sont extrêmement engagées. Donc l'accès de tous nos enfants au numérique, au-delà de l'élève lui-même. Je pense qu'il y a en effet cette question du handicap, mais nous avons toujours beaucoup de travail à faire parce que nous avons un système scolaire souvent très normatif et très hiérarchique. Et je pense que de ce point de vue-là, l'école française a encore un beau encore chantier devant lui. Ouais. Devant elle, pardon.
D'accord. Qu'en pensent nos amis de l'éducation nationale, les enseignants qui souvent sont montrés du doigt en disant l'échec, ça vient parce que l'école n'est pas assez performante, parce que les enseignants n'étaient pas assez bien formés, parce que il y a trop d'enfants par classe, parce que c'est vrai que pendant très longtemps, on a mis un petit peu la responsabilité sur le dos des enseignants qui, malgré tout, avec la formation qu'ils ont eue, pour certains très bonnes et pour d'autres un peu moins bonnes, on va dire les choses comme ça, est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas en train de s'apercevoir qu'en fait, l'éducation et puis le temps d'enseignement ne suffit pas ? C'est-à-dire que les enseignants tout seuls ne peuvent pas résoudre les problèmes d'une société et former les enfants, comme on est en train de voir aujourd'hui avec cette réforme ?
Oui, alors c'est une vaste question. Enfin, moi, je n'apporterai pas de recette miracle sur ce que l'école peut apporter, ce que la société peut apporter à l'enfant. Je suis juste là pour témoigner de ce qui se passe dans l'école maternelle des Chênes, sur le terrain, dans l'application de la réforme des rythmes scolaires.
Voilà, instituteur, on le rappelle, à l'école maternelle.
Voilà, je suis directeur et instituteur, professeur des écoles à l'école maternelle des Chênes. Et donc nous, très concrètement, la réforme s'est mise en place en septembre de cette année. Et donc elle concerne des enfants de maternelle. Le choix des parents et du conseil d'école était que les APE, c'est-à-dire les activités périéducatives, aient lieu de 4h moins le quart à 4h30. La mairie a joué le jeu et a bien respecté la demande à la fois des parents et des enseignants. Et donc les enfants finissent la classe à 4h moins le quart. Et sont prises en charge par des intervenants rémunérés par la mairie de 4h moins le quart à 4h30. Voilà, dans à peu près tous les domaines là, qui ont été évoqués, c'est-à-dire les arts, le sport, des lectures de contes. Voilà. Voilà ce que je peux dire sur ce qui s'est mis en place dans notre école.
Est-ce que vous n'avez pas l'impression justement que l'extérieur pénètre un peu trop dans l'école, ou est-ce qu'il n'y a pas cette appréhension qu'ont les enseignants, mais à juste titre, hein, et quels que soient les professionnels d'ailleurs, quand on fait intervenir des gens de l'extérieur, est-ce qu'il n'y a pas une appréhension de se voir dépossédé d'une partie de son travail ?
Bon, alors moi, je ne peux pas trop juger, hein, je suis plutôt là pour apporter des faits concrets. Bon, c'est sûr que l'école était quand même assez fermée, hein, mais ne serait-ce que pour des raisons de neutralité, de sécurité, à des interventions extérieures, ouais. Hein, tout simplement. Bon, avec cette mise en place des réformes scolaires, on a dû y rentrer, mais ça s'est fait évidemment en partenariat avec la mairie et dans un cadre légal, hein, très, très clair. Et après, au niveau des enseignants, bon, les réactions peuvent être diverses, hein, voilà, selon ce que les enseignants pensent des bienfaits que peut apporter cette réforme. Mais c'est sûr que concrètement, on a eu voilà, du monde qui est venu dans les écoles. Après, on peut réagir différemment. Disons que c'est bien aussi que des intervenants qui connaissent pas forcément le milieu de l'école mettent un pied dans l'école et puis aussi, comme vous le disiez tout à l'heure, se rendent compte aussi des enjeux qui sont énormes.
Et des difficultés. Hein.
Voilà, et des difficultés.
Parce que c'est vrai qu'on a eu quelques témoignages d'associations et de partenaires de l'école qui ont vu la difficulté de ce que c'est que d'encadrer un groupe. En général, en plus, c'est des groupes de 14 enfants ou de 18 enfants. C'est rarement une classe entière et que c'est souvent difficile pour eux d'intervenir et de maîtriser les enjeux qui se passent sur une classe, quoi. Enfin, en tout cas, sur un groupe d'élèves.
C'est exactement ça. Madame la directrice, peut-être, vous, comment vous appréhendez cette réforme, vous qui ne l'avez pas encore mise en place et qui doit arriver l'an prochain ?
Est-ce que c'est une inquiétude pour vous ou pas ?
Une inquiétude, non, plutôt pour l'organisation, c'est-à-dire la passation entre
entre le temps scolaire et...
Voilà,
et
là, il faut que ça soit bien organisé. Ouais. Parce que, bon, sur l'école, il y a plus de 155 élèves, donc il faut vraiment que la personne... Je sais que sûrement, il y a des coordinateurs par école, Et je trouve que ça, c'est très important parce qu'il faut vraiment que le lien entre l'école et la communauté, pour nous, c'est la communauté de communes hein, qui s'occupe des écoles, donc de Barjac et de Chanac, que ce lien soit très clair, qu'on sache bien où qui les enfants, qui voilà. prend en charge, où à vont les moment. Enfants, etc. Je pense que, puis au niveau de la sécurité, si fait, oui. certains enfants ont des PAI, etc., bon, il faut que tout ça soit bien clair pour que tout se passe au mieux. Voilà.
Oui, peut-être un témoignage de Françoise Couder, donc, qui l'a mis en œuvre sur la ville de Mende, simplement pour expliquer la réflexion qui a été faite et puis expliquer cette stratégie hein, avec un coordinateur général et des représentants dans les écoles.
Oui, en effet. Donc, on avait, avec le groupe de travail qui avait été donc, nommé pour la ville de Mende, auxquels participaient des élus, auxquels participaient des employés communaux, la directrice du service jeunesse et moi-même. Donc on a pensé à mettre en place des coordonnateurs qui seraient le lien entre les écoles et les associations et qui, eux, leur mission est la planification des activités sur chaque école. La vérification des locaux,
la disponibilité des locaux,
du matériel pédagogique, etc. Donc effectivement, il y a deux coordonnateurs qui font ce travail-là, puisque nous travaillons de période de vacances à une autre période de vacances, et du coup, il faut chaque fois reproposer des...
Donc c'est toutes les 7 semaines.
C'est toutes les 6 ou 7 semaines, en fonction du calendrier D'accord. scolaire. Par rapport à ça, on a aussi mis dans chaque école un référent qui est le lien entre l'éducation nationale, donc les directeurs d'école et les enseignants, et les activités périscolaires. Donc là encore, dans chaque école, un référent qui est responsable et qui a à sa disposition les noms des parents avec les numéros de téléphone des parents pour pouvoir pallier à tout incident ou accident qui surviendrait pendant ce temps périscolaire.
Les écueils que vous avez rencontrés sur cette première période, enfin, entre septembre et octobre, et ensuite entre octobre et décembre.
Les écueils, en termes organisationnels, il y a des fois les locaux qu'il faut repenser en fonction de l'activité, les activités qui sont extérieures, celles qui sont intérieures.
Un manque de locaux aussi, quand même.
Un manque de locaux, ouais. Dans certaines écoles, c'est très compliqué. Les écueils que l'on a eu aussi, c'est les activités ne sont pas obligatoires. Donc les parents peuvent venir chercher leurs enfants sur des grandes écoles, sur des grosses écoles. Je pense notamment à l'école Jean Bonijol où on a 240 enfants scolarisés. Il fallait qu'il y ait quelqu'un qui soit présent à la sortie, enfin à 15h lors du début des activités périscolaires pour éviter que des enfants ne s'enfuient de l'école et qu'on ne sache pas où ils sont. Soit ils sont sur les activités périscolaires, soit ils sont pris en charge par
donc là, un problème de sécurité famille. Et de
voilà,
contraintes un peu.
Les problèmes de sécurité ouais. Sont...
Qui inquiétaient les parents aussi.
Qui inquiétaient les parents, voilà. On a aussi des difficultés dans les transferts des enfants de l'école vers leur lieu d'activité. Donc là, notamment sur le primaire, il y a 18 enfants encadrés. Un seul animateur, ça paraît compliqué parce que les enfants bougent sur les trottoirs. Donc pour éviter les incidents, soit on regroupe deux groupes d'activités, c'est-à-dire qu'il y a deux animateurs avec
un devant et un derrière.
Un devant et un derrière, voilà. Et on a fait appel aussi à des associations qui nous mettent à disposition.
Comme
des
l'AFL,
accompagnants.
C'est ça
voilà, c'est l'AFL effectivement qui nous met depuis là,
pour
le
encadrer
début de la rentrée
un petit peu,
de janvier, ouais. Effectivement un accompagnateur supplémentaire sur ces groupes-là.
Donc là, vous avez trouvé des solutions techniques un petit peu à tous ces petits problèmes qui se sont révélés, quoi.
Oui, en effet, on essaie de répondre à tous ces petits problèmes techniques pour que le déroulement des activités se passe dans le meilleur des cas possible.
Voilà, on voit, c'est tout un travail logistique et d'ajustement aussi.
C'est un gros travail un logistique, gros travail, j'ai l'impression. Ouais. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi une question sur comment vous avez intégré en fait, le personnel municipal déjà présent. Donc, qui était présent sur les garderies, qu'est-ce qu'il fait maintenant
Le personnel municipal, donc, certaines ont effectué une formation sur 4 jours avant la rentrée scolaire qui leur donnait les bases pour l'animation d'un groupe d'enfants, d'une part. D'autre part, on a aussi revu tous les emplois du temps du personnel communal pour qu'ils soient présents sur ces rythmes scolaires. qui soit aussi présent le mercredi matin lors de l'école et des cours de normaux. Et puis, on a aussi privilégié dans certaines grosses écoles la présence supplémentaire d'un personnel communal qui est le lien, le référent sécurité, qui est en lien avec le coordonnateur, qui est en lien avec le référent de l'école aussi, et qui est là pour gérer les entrées-sorties de l'école, pour gérer... les appels pour gérer...
C'est en train de faire peur à monsieur le maire. Monsieur André, ça lui fait un peu peur, toute cette organisation.
Oui, un petit peu. Oui, je vous écoute attentivement, puisque cette émission nous permet aussi de prendre connaissance de ce qui a été fait sur Mende. Bon, certes, nous, c'est une école quand même un peu plus petite. Puis à Mende, vous avez plusieurs écoles. Nous, on a une seule école sur la commune, certes 6 classes, mais c'est vrai que quand vous parlez de tout ce besoin de coordination et tout ça, ben, ça fait un petit peu peur. Bon, on se doute bien qu'il va falloir coordonner tout ça, mais nous, on n'envisageait pas de recruter quelqu'un en plus, parce qu'on a déjà des difficultés, puisque certes, une partie de notre personnel qui travaille actuellement à l'école pourra assurer la prise en charge d'élèves pendant ces activités périscolaires. Et c'est notamment pour cela que j'ai proposé à Madame l'inspectrice d'académie, elle l'a évoqué tout à l'heure, que l'on puisse faire la distinction entre les classes de maternelle et les autres classes de l'école, parce que pour les classes maternelles, nous avons déjà des ATSEM qui assurent la surveillance des enfants pendant le temps de repos. Et donc, pour ces 2 classes de maternelle, le temps d'activité périscolaire va se situer entre 13h30 et 14h15, sachant que si la sieste n'est pas terminée, bien sûr que le personnel continuera à le prendre en charge et qu'on ne va pas les réveiller à 14h15, ce serait aberrant.
Ça faisait partie de la directive de Vincent Payan, d'ailleurs, surtout ne réveillez pas les élèves pour aller en...
Oui, et... Et ça nous paraissait, cela, tout à fait indispensable. Ensuite, bon, l'idée aussi, en le faisant à des horaires différents, c'est que notre personnel, même s'il nous faudra d'autres intervenants extérieurs, parce que le personnel communal a déjà des contrats et ne suffira pas, mais ça nous permet aussi d'avoir du personnel communal qui est ensuite disponible les mardis et vendredis de 15h à 16h30, puisque c'est à ce moment-là qu'on le met en place pour les autres classes. Donc c'est dans ce sens-là qu'on l'a fait. Certes, je reconnais que pour les enseignants, ce n'est pas l'idéal, puisque pour les enseignants, eh bien, ils n'auront pas les mêmes horaires de travail. Je reconnais, puis je sais un petit peu de quoi je parle, puisque je suis enseignant en retraite, donc je connais assez bien le fonctionnement des écoles. Donc je reconnais que pour elles, ce n'est pas évident du tout. Enfin, pour elles, je dis elles, parce que nous avons des enseignantes à l'école de Montrodin, des dames donc en grande majorité. Mais nous, on a aussi, côté commune, on a aussi le souci, bon, financier certes, mais aussi le souci d'avoir suffisamment d'intervenants pour assurer des activités et que ce ne soit pas uniquement de la garderie, parce que sinon on aurait tout faux. Voilà, alors c'est dans ce sens qu'on a mis en place cela. C'est peut-être pas définitif, si on s'aperçoit que c'est une erreur, on pourra y revenir dessus dans quelques années. Mais en attendant, on a pensé que c'était pour nous la meilleure solution, parce qu'encore une fois, il nous faut et du personnel communal et des intervenants extérieurs. Le personnel communal, lorsqu'il s'agit de compléter un emploi du temps, un contrat, pardon, qui est actuellement à temps partiel, c'est relativement facile. Par contre, pour les intervenants extérieurs, la grosse difficulté que l'on rencontre, c'est que l'on propose des contrats à 2 fois 1h30 par semaine. Notre crainte, c'est que pour ces intervenants, si on leur propose demain un contrat plus intéressant, ils risquent de partir. Et donc, nous serons sans arrêt à la recherche d'intervenants extérieurs, ce qui ne serait pas très bon, ne serait-ce que parce qu'on souhaite qu'il y ait un projet pédagogique
et une progression
tout au long de l'année.
Dans le cadre de ce projet, ça peut faire... si c'est réfléchi en amont, pourquoi pas, quoi. C'est-à-dire que des enfants... Parce que l'année est assez longue, quand même. Hein.
Oui.
Donc, avoir toujours la même activité, ce n'est pas forcément... aussi très très opportun. L'intérêt peut-être de cette réforme, c'était justement de faire découvrir à un tas d'enfants, comme on l'a entendu sur le reportage tout à l'heure, de la boxe, du karaté, des jeux de société, des web TV,
il faut
etc.
pouvoir le faire, il faut avoir le moyen d'avoir
maintenant,
ces intervenants.
Il faut avoir les moyens, mais nous, l'idée que l'on avait, si par exemple on a un intervenant, ben, je vais prendre par exemple au niveau théâtre, ben, il pourrait s'occuper d'un groupe de la rentrée aux vacances de Toussaint, puis d'un autre groupe de Toussaint à Noël, mais cet intervenant-là, on l'aurait sur toute l'année.
Sur l'année, tout à
fait. Mais il interviendrait à tour de rôle sur
différents groupes.
Voilà, et comme ça, pour nos enfants, ils pourraient découvrir plusieurs activités sportives, culturelles, artistiques au cours de l'année. Voilà, ça c'est l'idéal. Est-ce qu'on va le réussir? Je ne sais pas, mais enfin, en tout cas, puisque maintenant notre plage horaire est validée, on va s'y atteler. On a déjà des contacts, mais on va essayer d'avancer
là, vous en avez
le
un
plus
autre
concrètement
avec,
possible
avec François
dans ce domaine-là.
Il ne faudra pas hésiter, je pense.
Oui. Et vous avez un animateur radio sur votre commune. Alors, on va vous le présenter pendant la pause musicale parce qu'il pourra venir donner des cours aux enfants. On a largement dépassé la moitié de cette émission. On va faire une pause musicale avec Loudoyant et Jalousie.
Jealousy, the way you treat me. You never seem to leave. You're always there to tease me. And jealousy, the way you beat me. Even when he's gone, I'm never quite alone. Jealousy, one day you'll finish me. Like maggots do flesh, but at least they come as rust. It's alright, it's always me. Side to side, we keep each other company. You're always there, my faith and devotee. Jealousy, the way you shake me. You make me dream it all, and then you watch me fall. Jealousy, it's only you I see. Written on the walls, happening behind doors. Jealousy, the way you beat me. Even when he's gone, I'm never quite alone. It's never I, it's always me. Side to side, we keep each other company.
FM Le Mag.
Et nous voilà repartis pour cette seconde et dernière partie d'émission qui sera peut-être un peu plus courte que la première. Donc nous avons fini avec Monsieur le maire de Montrodda. Et justement, au niveau des élus, on va faire un petit bilan de cette réforme qui a été mise en place depuis la rentrée 2013 sur 4000 communes en France, 1 300 000 élèves qui sont concernés. Alors il y a l'Association des maires de France qui, fin 2013, a lancé une enquête auprès de ces 3852 communes, pour être exact, qui ont décidé d'adopter la réforme en septembre dernier. Plus de 1100 réponses sont arrivées. Et il faut savoir que la satisfaction l'emporte au final chez 4 maires sur 5. 83% des communes se disent satisfaites. Le bilan est beaucoup plus mitigé dans les communes de 30 000 habitants. Alors, il faut savoir que ça représente seulement 9 communes dans l'enquête, où 45% des parents ne sont pas satisfaits selon les maires. Et point positif, donc pour nous, la quasi-totalité des maires des communes rurales, après 6 mois, sont satisfaits de la mise en place de cette réforme. Alors, parmi les points négatifs, c'est la complexité de mise en œuvre de la réforme, son coût pour les finances locales. Donc ça, on l'a annoncé, il y a peut-être des moyens, on vient d'en parler, il y a peut-être des moyens d'y remédier. On a entendu les enfants au début de cette émission. On va écouter les parents maintenant. Moi, je me suis intéressé au niveau national déjà sur les arguments récurrents des parents qui étaient un peu contre cette réforme, donc qui expliquaient que d'après eux, l'enfant ne peut pas encaisser autant de temps collectif qu'un trop grand nombre d'adultes référents dans une seule journée pour un enfant, notamment en maternelle. Et également un risque de confusion entre scolaire et périscolaire, car la journée se déroule dans le même bâtiment pour certaines écoles. La désorganisation que cette réforme va créer dans les rythmes familiaux et professionnels. Donc ça, il faut savoir, c'est au niveau des parents. Cette réforme est mise en place pour les enfants, mais bon, il y a les parents derrière, et certains se disent, voilà, est-ce que je reste à 80%, sachant que le mercredi matin, mon enfant est pris en charge. Difficulté. On va écouter les parents lozériens, quelques témoignages, justement, pour savoir si ça se regroupe avec ces informations au niveau national, et savoir ce qu'eux en pensent.
Moi, je trouve qu'elle n'était pas nécessaire, que le rythme scolaire de 4 jours me convenait très bien, et je vois pas pourquoi on a fait ça. Je vois pas le bénéfice des enfants, quoi, parce qu'ils se lèvent une demi-journée, enfin, un jour de plus par semaine. Pour moi, ce qui fatigue les enfants, c'est la présence à l'école, c'est pas forcément l'école elle-même, c'est la présence en dehors du domicile, quoi. Je pense qu'un enfant qui vient le matin à 7h30 à la garderie, il va rester jusqu'à 6h, pareil. Donc pour lui, la fatigue est la même, et en plus, il devra venir le mercredi matin. Moi, ça allait très bien. La semaine de 4 jours me convenait très bien.
Personnellement, ça ne m'arrange pas. Mais globalement, j'ai l'impression, en tant que représentant des parents d'élèves, que ça apporte pas mal de choses à beaucoup d'enfants. En particulier, la possibilité d'avoir des activités qu'ils n'auraient pas sans ça. Il y a un peu plus de fatigue, mais je pense qu'il faudra un peu de temps pour que ça soit vraiment calé. Il faudrait reparler de tout ça dans 2 ou 3 ans.
Vos enfants faisaient des activités hors de l'école avant ?
Oui.
Et du coup, maintenant, est-ce qu'ils en font toujours ?
Moins. C'est là que le bas blesse pour moi, personnellement.
Je ne suis pas du tout contente parce qu'en fait, j'ai remarqué que ma fille est beaucoup plus fatiguée. Elle est en grande section, donc j'imagine les enfants qui ont 2 ans et demi et qui restent à la garderie jusqu'à 18h ou qui sont là depuis le matin tôt. Moi, à 4h30, elle rentre, elle est couchée sur le canapé, bien qu'elle soit couchée le soir à 8h moins 10. Donc le fait qu'elle ait l'école le mercredi, la semaine est longue et c'est dur. Après, c'est peut-être enrichissant au niveau des activités qui sont proposées. Donc je ne dis pas, mais honnêtement, au niveau du rythme, moi, elle est beaucoup plus fatiguée que les années passées.
Moi, la réforme, ça a été dur au départ par rapport à Lucas. La mise en place a été un peu dure, même au niveau de l'école. Mais maintenant, ça va. Les activités sont intéressantes, les enfants se régalent et le rythme a été pris. Pas plus fatiguée, je sais pas. Peut-être un peu plus fatiguée quand même, mais bon.
C'est ridicule d'avoir fait ça. On aurait dû laisser tel quel, étant donné que les enfants sont très fatigués maintenant. Ça faisait une coupure dans la semaine, c'était très bien, pour les parents aussi. Étant donné qu'en plus, il n'y a même pas la cantine le mercredi, donc il y a des parents, c'est un petit peu délicat. Bon, moi, je travaille pas, mais bon, j'ai un petit bébé aussi, donc je suis obligée de sortir à chaque fois. Donc c'est un peu pénible, surtout avec le froid. Donc je trouve qu'ils devraient réévaluer ça un peu, parce que c'est un petit peu ridicule, je trouve. Oui, elle faisait des activités, oui, mais maintenant, trop fatiguée, elle en fait plus. Voilà, parce que, en plus, elle est au CP, donc c'est une école très importante. Donc il faut qu'elle ait un minimum de concentration, et je trouve qu'elle en a un petit peu moins depuis. C'est une élève assez brillante, mais depuis cette réforme, elle est très fatiguée, donc manque de concentration, voilà, plein de choses comme ça. Voilà, c'est pour ça que je trouve ça un petit peu bête d'avoir fait ça là maintenant, quoi.
Bah, dans cette école-là, c'est bien organisé au niveau des activités. Voilà, il y a ce qu'il faut, les enfants s'embêtent pas. Moi, ils sont contents de ce qu'ils font. Après, au niveau du programme, je sais pas, j'en ai pas discuté avec les instituteurs. Voilà.
Est-ce que
ça leur convient ou pas, ça je ne sais pas.
D'accord. Est-ce que sur ce mois, vous sentez vos enfants plus fatigués qu'avant de faire...
Non, pas du tout.
Pas de fatigue ?
Non, pas de fatigue. Ils ont râlé au début parce qu'ils allaient à l'école le mercredi matin, puis finalement, ils sont contents de sortir avec leur cartable à 11h30, voilà.
D'accord, ils font, enfin c'est peut-être un peu tôt, vous êtes là depuis un mois, mais ils font des activités habituellement en dehors de l'école.
Oui, ils en faisaient déjà, ouais.
Et du coup, le fait qu'ils en fassent à l'école, est-ce que ça va, ils vont pas en faire en dehors ou ça changera rien?
Si, on a restreint sur l'extérieur, ouais. Ouais. Parce qu'ils voulaient en faire deux, trois, et du coup, bah, ils n'en font plus qu'une, c'est suffisant avec tout ce qu'ils font à l'école, c'est suffisant. Ouais.
Moi, je pense que bah, c'est important de réformer l'école, mais que réformer juste les rythmes scolaires, ça ne suffit pas. Il faudrait réformer les programmes, il faudrait repenser la garderie, repenser le lien entre les municipalités et le ministère. Et je pense que ce n'était pas aux municipalités de prendre en charge le temps péri-éducatif.
Vous, quel retour vous avez de votre enfant sur ces activités qu'il fait ?
Ils sont très contents. J'ai le petit qui est... qui a l'air ravi et qui est beaucoup moins énervé et voilà, très content quand il rentre à la maison. Et j'ai le grand qui est dans une situation particulière parce qu'il est en CLIS, il est handicapé, il est autiste et ben, on ne nous le prend jamais, on n'accepte pas de prendre notre enfant dans les activités périscolaires. Et là, il a enfin l'occasion de pouvoir faire autre chose que ce qu'il fait à l'école. Donc si ça n'existait pas, il n'aurait jamais pu faire du cirque, de la gym, etc. etc.
etc. Voilà, beaucoup d'informations dans ces témoignages de parents. On va peut-être rester sur ce dernier, c'est ce qu'on disait, cette réforme des rythmes scolaires qui doit permettre à tous les enfants de pratiquer les activités. C'est quand même poignant d'entendre cette maman expliquer que son fils, eh bien, il n'était jamais pris avant et que grâce maintenant à cette réforme, il peut pratiquer du cirque. Madame l'inspectrice d'académie.
Oui. En effet, je pense qu'aussi il y a eu un effort de la ville de Mende pour pouvoir permettre aux élèves des différentes CLIS d'accéder à ces activités. Une volonté d'intégrer l'enfant sur tous ses temps. Et ça, c'est quand même, bien entendu, un point plus que positif.
Et puis que les autres enfants puissent vivre aussi ce genre d'activité avec d'autres enfants. Quoi.
Oui, ça, c'est tout à fait.
Ce mélange-là.
Voilà. Pour ces témoignages, je tiens à préciser que donc, peut-être les mamans les plus vindicatives qu'on a entendues, c'est souvent des mamans de maternelle. On voit que cette réforme pose plus problème pour les tout-petits pour que, par rapport à ceux qui sont en primaire. On a la chance d'avoir un instituteur de maternelle. Est-ce que vous vous sentez les enfants... on ne va pas parler de fatigue, encore que si, vous pouvez peut-être les sentir plus fatigués ou plus craintifs de voir d'autres intervenants. Comment vous sentez les enfants, vous, en classe ?
Alors, c'est qu'un ressenti, peut-être si on s'en tient simplement au fait. Alors, la difficulté en maternelle, c'est qu'il n'y a pas vraiment un clivage important entre ce qui est du activité scolaire, comme on l'entend habituellement, c'est-à-dire maths, français, des choses comme ça, qui requiert de l'enfant une attention très, très soutenue, et puis les activités de sport et d'art qui sont peut-être un peu plus ludiques et puis qui nécessitent moins de concentration de la part de l'enfant. En maternelle, c'est plus mêlé finalement. Et ce qui est peut-être plus judicieux pour... C'est la distinction entre les temps collectifs avec beaucoup d'enfants et les temps de repos ou les temps à la maison ou avec la nounou. Et c'est vrai que c'est un petit peu ce que semblait dire cette maman qui disait que voilà, c'est le temps en collectivité qui est important et qui, je pense, génère la fatigue. C'est pour ça qu'on a un peu ce ressenti de la part des parents pour les enfants de maternelle. Je dis bien pour les enfants de maternelle. La deuxième chose, c'est que je crois que même à l'intérieur de la maternelle, il faut vraiment faire la différence entre les tout-petits, les 2 ans, 3 ans, pour lequel ça peut être problématique, qu'il y ait beaucoup d'intervenants, parce qu'effectivement, ils ont
une perte de repères.
Voilà, ils ont une petite perte de repères. Si c'est un intervenant différent tous les jours, c'est vrai qu'il faut un temps d'adaptation pour l'enfant, et ça les perturbe un petit peu. Donc peut-être il serait plus judicieux de garder, d'avoir moins d'intervenants qui puissent faire des choses un peu... Voilà, qui puissent avoir plusieurs cordes à leur arc, mais peut-être d'avoir moins d'intervenants pour ces tout petits-petits, c'est-à-dire les 2 ans, 3 ans, 4 ans. Après, pour les moyens grandes sections, ils s'adaptent plus facilement.
Justement, Amande, Françoise Couder, il y a eu des réajustements au niveau des maternelles ?
Oui, on essaie d'être toujours à l'écoute, soit des enseignants, soit des parents d'élèves. Donc ces réajustements, on va essayer de les mettre en place. À savoir que la difficulté que l'on a aujourd'hui, c'est qu'on a des enfants dans les classes de 22-23 enfants, des classes de 22-23 enfants, et les activités éducatives, périscolaires, nous devons avoir 14 enfants maximum. Du coup, nous sommes obligés de scinder les classes en plusieurs groupes, et c'est vrai que ça perturbe beaucoup les enfants, puisque certains restent dans la classe, d'autres partent. Et ça complique
ça casse l'unique des groupes sur lequel les enfants, comme disait l'instituteur, en fait, se retrouvent.
Voilà. Hein,
Donc, c'est un repère supplémentaire de perdu.
Donc du coup, on essaie de travailler soit pour les autres périodes, soit pour l'année prochaine, la rentrée 2014, pour essayer de voir, de limiter les déplacements de ces enfants au sein de l'école, pour leur activité d'une part, et d'autre part, essayer de trouver des intervenants qui soient déjà parmi leurs repères de l'école, le personnel communal ou voilà
ce qui est plus judicieux.
Essayer de trouver
donc de former en interne en gros le personnel municipal pour répondre à ces
maintenir ces repères qu'ils ont pendant la journée d'école et pour éviter de tout perturber pour les activités.
Voilà, parce que ces enfants marchent beaucoup à l'affectif, c'est ce qu'on expliquait en off, on en discutait tout à l'heure, Monsieur Louvot, de ces enfants qui sont tout petits, qui marchent vraiment à l'affectif, d'où la nécessité qu'ils aient des intervenants qu'ils connaissent et qu'ils aient l'habitude de rencontrer. C'est ça.
Oui, c'est très important qu'ils connaissent les gens avec lesquels ils vont être. Hein. Je crois que la mairie en a quand même bien tenu compte dans le sens où, dès le départ, il y avait les ATSEM, en plus des intervenants extérieurs, qui étaient là pour encadrer l'enfant. Des ATSEM donc, qui connaissent les locaux, qui connaissent les enfants, et donc qui peuvent apporter tout le confort matériel à l'enfant lorsqu'il en a besoin, en plus de l'intervenant qui, lui, apporte disons, une ouverture extérieure, hein, comme ça a été le souhait. Aussi des parents, puisqu'il y avait le souhait des parents que ce ne soit pas juste une garderie, mais qu'il y ait des activités.
Voilà. Alors, problème évoqué également le mercredi matin. Hein, Nico, ce sacré mercredi matin qui pose problème un jour de plus à l'école.
Pourtant, je pense qu'on l'a tous vécu ce mercredi ou ce samedi matin, non?
Oui, d'une part, mais parce que nous sommes
des anciens.
Nous sommes des anciens, où moi-même j'ai eu des enfants qui allaient à l'école le samedi matin, ce qui pour moi était un moment de pause, puisque je ne travaillais pas à l'époque le samedi matin. Bon. Alors, il ne faut pas oublier quand même que l'objectif était que des enfants puissent bénéficier de plus de moments d'apprentissage où ils pouvaient se concentrer. J'ai bien entendu la maman qui considérait que sa fille n'était pas concentrée. Je pense que malgré tout, ce sont les enseignants dans les classes qui peuvent plus se rendre compte que l'enfant est concentré ou non. Et je l'espère, en effet, que le soir, son enfant a plutôt envie de décompresser et, à part certaines leçons éventuellement à apprendre, n'ait pas besoin d'être concentré à la maison. Et c'est bien le fait que le matin ayant été considéré comme plus propice aux apprentissages, notre ministre a souhaité que les enfants puissent bénéficier d'une matinée de plus à l'école. C'est bien cela le fondement des nouveaux rythmes scolaires.
C'est pas de faire forcément du sport ou ce qu'on ferait l'après-midi, quoi.
Ah
c'est
non,
bien.
C'est pas donc que ça veut ça, dire qu'il y a c'est derrière. Pas que ça. C'est vraiment voilà. Refondre. Alors pour les enseignants, il faut aussi bien voir qu'en effet pour eux, c'est une réflexion à nouveau sur leur façon d'organiser leur programme d'enseignement, puisque
de reprogrammer
depuis 2008, ils travaillaient sur 4 jours complets. Et là, ils doivent retravailler, repenser leur séances de travail avec les élèves et pour les organiser sur 9 demi-journées. En tenant compte du moment où il y aura ces activités périscolaires pour faire en sorte que leurs enseignements soient au moment les plus propices aux apprentissages. Donc, il faut bien voir que c'est dans cette optique-là qu'il y a eu une neuvième demi-journée qui a été instaurée dans la semaine de nos enfants. Mais il est vrai que ça fait des incidences complètes sur la société, puisque ça peut obliger certains parents à avoir une contrainte de matin, le mercredi.
Oui, ça bouscule les rythmes familiaux et professionnels.
Sur les petits. Alors c'est vrai qu'il faut relativiser, parce qu'en fait, ce qui se vit dans les communes rurales, dans le monde rural en général, et ce qui se vit dans les grandes villes, c'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire qu'aussi le constat qui a été fait par le ministère et puis par les prédécesseurs bien avant, hein, c'est pas que que de ce ministère, c'est bien de comprendre qu'en fait beaucoup d'enfants se retrouvaient, notamment dans les quartiers, se retrouvaient seuls à la maison, sans contrainte familiale ou en tout cas sans cadre familial, on va dire ça comme ça. Donc sans pratique sportive, culturelle ou périscolaire, puisqu'on sait que maintenant il n'y a que 20% des enfants qui avaient une pratique, que très souvent ces enfants dans les quartiers n'avaient pas de pratique, étaient délaissés, se retrouvaient dans des cages d'escalier. Et donc le fait de réinstaurer une matinée, notamment chez les primaires, c'est aussi de redonner un petit peu un cadre à tous ces enfants qui se retrouvaient un petit peu, on va dire, entre guillemets, dans la rue ou dans les cages d'escalier. de leur redonner ce cadre et de leur faire découvrir aussi un autre aspect de la vie qu'on peut avoir en ayant des pratiques sportives ou culturelles. Je crois qu'il faut aussi bien montrer, parce que quand on vit en Lozère, on est quand même un petit peu privilégié, je dirais ça, même si on n'a pas accès à tout. Quand on parle d'inéquité, il faut aussi comprendre que dans beaucoup de... Je suis allé il n'y a pas très longtemps à Perpignan, dans le quartier Saint-Charles. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'enfants qui, s'ils n'avaient pas les activités périscolaires aujourd'hui, et témoignages des gens aussi le disent, n'auraient aucun accès à la culture, notamment avec la Casa Musicale et toutes les infrastructures qu'il y a sur Perpignan. Je crois qu'aujourd'hui, il y a un côté très positif à avoir rajouté une demi-journée d'école et qui n'est pas vécu forcément de la même façon suivant où on se trouve en France.
Alors justement, qu'est-ce que pensent nos enfants de ces activités qui leur sont proposées à Mende, et est-ce qu'ils se sentent plus fatigués qu'avant ? On va écouter de suite leur réponse.
Je pense que tout le monde aime bien ça. Et ça nous fait apprendre surtout des choses qu'on ne connaît pas encore.
Ça me plaît beaucoup.
Oui, moi ça me plaît.
Ben, à peu près tout. J'aime bien découvrir des nouvelles choses.
Oui, ça me plaît bien parce que on peut découvrir de nouvelles choses si on ne connaît pas. C'est mieux qu'avant parce que au moins on peut découvrir des choses alors que dans la classe, eh ben, on était obligé de travailler jusqu'à 4h30.
C'est pourquoi mieux qu'avant. Parce que déjà, ça nous fatigue. On est moins fatigué le soir après parce que on termine plus tôt. Et au moins, ça permet de répartir un peu le temps des cours sur toute la semaine.
Je suis habituée parce que moi, souvent, j'y vais à 7h30 à l'école.
Parce que moi, je suis habituée à me lever tôt. Et
moi, juste le mardi pour aller à l'école le mercredi.
Ben, au début de l'année, oui, parce que l'année dernière, on faisait pas ça. C'est plus difficile pour me lever.
Ben, pas beaucoup, parce que moi, j'ai des activités en dehors du temps d'école. Alors, ça me dérange pas beaucoup, j'ai l'habitude de me lever tôt.
Non, parce qu'après les activités, je suis un peu plus fatiguée. J'arrive pas bien à me lever le lendemain matin.
Le lendemain matin, voilà, il y a des enfants qui sont fatigués, d'autres non, un peu moins. En tout cas, voilà, j'ai interviewé au moins une cinquantaine d'enfants, je n'ai pas fait le tri, vraiment tous ces enfants qui nous disent aimer ces activités, je l'ai vraiment fait de manière neutre, il faut le savoir, hein, voilà, je n'ai pas enlevé ceux qui me disaient non, c'est nul, je n'ai trouvé aucun enfant qui me disait on s'ennuie dans les activités proposées. Donc ça, voilà, c'est un point positif.
Alors, rappelez quand même que ces activités, comme madame l'inspectrice l'a dit, ces activités, en fait, sont de l'ordre du volontariat. Hein. Ce n'est pas une obligation en France.
Peut-être rappeler les chiffres, Françoise Coudert, sur la ville de Mende.
Oui, alors, donc, sont concernés par les activités périscolaires, donc, les enfants des 7 écoles publiques mendoises. Et donc, on a 700 enfants, globalement, qui sont concernés. Et donc, on a à peu près 86% d'enfants qui sont inscrits sur ces activités périscolaires. Donc, c'est un chiffre
un taux
assez révélateur. Ouais, oui, assez révélateur.
En même temps, il faut dire que, comme vous l'aviez dit aussi, monsieur André, que la gratuité est un élément important et indispensable à cette réforme.
Oui, enfin, en tout cas...
la gratuité pour les parents, je veux dire.
C'est le point de vue... du conseil municipal de Mont-Rodin. Parce que, effectivement, cela va permettre à des enfants qui, aujourd'hui, ne peuvent pas bénéficier de ces activités, découvrir du théâtre, tout à l'heure on parlait de boxe, enfin, de tous les sports, ben, ça va peut-être permettre à ces enfants-là de découvrir tout cela. Et sur ce point-là, si on y arrive, la réforme sera une réussite. Mais il nous faut surtout faire attention et ne pas laisser des enfants de côté. Donc c'est pour ça que la gratuité me semble très importante. Sur Mont-Rodin, on envisage tout de même de demander aux familles de procéder par inscription. C'est-à-dire que si l'on met en place une activité de sport, je ne sais pas, découverte du tennis de table par exemple, on aimerait bien que les enfants inscrits soient présents à toutes les séances. Et pas une fois oui, une fois non.
Sous la forme d'un engagement.
Voilà. Alors, ce sera un engagement moral, mais bon, on souhaite procéder de cette façon-là, parce que si l'on fait appel à un intervenant extérieur, on ne voudrait pas qu'il vienne un jour pour 12 jeunes, et puis un autre jour pour 3 ou 4. Et puis, cela ne permettrait pas d'avoir une progression dans l'activité. Voilà.
Mais je pense que c'est aussi rendre responsables les enfants, hein, c'est-à-dire que c'est
oui,
gratuit, mais ça ne veut pas
participe.
Dire... Voilà. On participe, voilà, on va jusqu'au bout.
On va au bout. Voilà. Après, si ça ne plaît pas, on n'en renouvelle pas, mais on va au bout.
Et on voit, on a vu les enfants qui étaient contents parce qu'aussi, la municipalité a mis les moyens de proposer des activités. Ça ne va peut-être pas être le cas partout aussi, parce que comme vous l'expliquiez, c'est quand même un coût financier pour la commune.
C'est un coût financier pour la commune. Bon, nous, si on le répercute intégralement au niveau des impôts, puisqu'on ne veut pas demander de participation financière aux familles, mais il faudra bien équilibrer les budgets. Et pour Montroda, si on le répercute intégralement au niveau des impôts, c'est une augmentation des impôts de l'ordre de 7%. C'est quand même très conséquent, surtout en ce moment où tout le monde est en grande difficulté financière.
Est-ce que ce n'est pas des choix à faire pour les collectivités aujourd'hui ? C'est-à-dire qu'on sait que les collectivités ont mis beaucoup d'argent dans un tas d'investissements ou de choses qui ne sont pas forcément des priorités absolues. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est pas cette réforme, est-ce qu'elle réinterroge pas l'élu en lui disant l'école de la République, est-ce que c'est pas finalement une de vos prérogatives ? Est-ce que c'est pas une des priorités aujourd'hui quand on voit le nombre d'enfants qui sortent sans bagages ?
Si, tout à fait. Mais là, je suis relativement à l'aise pour en parler parce que l'école, j'en ai fait une priorité depuis très longtemps. D'ailleurs, c'est parce qu'on est venu me demander en 1989 de participer au projet d'une école neuve sur Montroda, que je fais partie du conseil municipal, dont j'ai été plusieurs fois conseiller municipal et puis maintenant maire. Et c'est en 92 que donc une école neuve avec structure cantine, garderie a ouvert les portes à Montroda, alors que nous avions deux classes uniques menacées de fermeture. Et on a créé cette école avec 4 classes, 60 enfants au départ. Aujourd'hui, c'est 6 classes et 100
élèves. Donc ça
a permis
le développement de votre commune.
Et on a fait un budget caisse des écoles pour vraiment savoir le coût de fonctionnement de l'école. Et à titre d'information, il faut savoir que nous prenons sur le budget de la commune presque 110 000 euros que nous versons sur le budget de l'école pour équilibrer ce budget. Donc je crois que ce dont vous parliez, l'investissement au niveau de l'école, à Montroda, il y a longtemps qu'on a pris le parti de soutenir l'école et on a envie d'avoir une école de qualité. Maintenant, bien sûr qu'il faudra établir des priorités, comme on le fait tout le temps. Si demain il faut un peu plus pour l'école, il y aura un peu moins pour autre chose. Mais ça, tous les élus doivent faire ces choix-là.
Chanac a les moyens également de ses ambitions. Vous ne savez pas encore, on demandera à M. Rochou directement.
Ah oui.
Mais je pense que.
Non, mais c'est une question. C'est vrai que pour tous les élus, en tout cas tous les conseils municipaux, je pense que c'est important. Sur la ville de Mende, il y a eu des discussions, il y a eu un vote à l'unanimité pour se lancer dans cette. Je crois, c'est ça, pour se lancer dans cette réforme. Je crois qu'après, voilà, il y a des choix politiques qui sont faits, il faut les assumer. Les petits d'aujourd'hui seront les futurs chefs d'entreprise, les médecins, les gestionnaires, les élus de demain, et qu'on ne peut pas sans arrêt repousser ça et se dire qu'on doit plutôt investir dans un rond-point ou dans une réfection des rues et pas dans nos enfants.
Voilà. Pour finir, peut-être, Madame l'inspectrice d'académie, vous avez beaucoup de retours d'élus, de communautés sur la réforme qui doit être mise en place l'an prochain ?
Ah oui, oui. non, beaucoup de retours extrêmement positifs. Les élus, enfin, on avait fait des réunions délocalisées en octobre et novembre sur le territoire. Et de toute façon, j'avais bien constaté que les équipes municipales et les équipes enseignantes étaient au travail pour préparer la rentrée 2014. Et hier, j'ai fait donc plusieurs visites d'école, parce que j'aime bien faire des visites en circonscription. Bon, parmi les 3 écoles, il y en avait une qui avait déjà mis en place les nouveaux rythmes, mais les 2 autres, non. Et les échanges avec les équipes enseignantes, comme avec les maires qui, à chaque fois, étaient présents ou leur adjoint chargé de l'éducation, étaient très constructifs. Et donc, de ce point de vue-là, les choses avancent très positivement. Quels que soient les enjeux qu'il pourrait y avoir sur cette année 2014. Non, c'est très, très positif. Nous, on a reçu beaucoup d'organisations du temps scolaire. Il nous en manque quelques-unes. Et nous travaillons avec les inspecteurs de circonscription pour, bien entendu, avancer sur ce dossier. Et
il faut se donner du temps aussi, quand même, parce que je pense qu'une réforme comme ça, qui est une réforme de profondeur, ne peut pas trouver sa place en 6 mois. Là, on a fait une étape, une dernière étape, mais je pense qu'il y a encore à estimer, à trouver d'autres solutions, à partager, et que peut-être l'intérêt de cette réforme, vous venez de dire un petit peu en filigrane, c'est d'avoir remis autour de la table des gens qui ne se parlaient pas forcément, dans le souci de l'enfant, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de cette réforme et des inconvénients, mais je pense qu'elle a été faite dans un sens qui est celui de l'enfant et qu'il ne faudrait pas le perdre de vue, quoi, que c'est vraiment pour nos petits d'hommes de demain.
Oui, oui, tout à fait. Et bon, on l'a vu dans le cadre des comités de suivi des rythmes, que ce soit départementaux, que ce soit académiques, il y en a un au niveau national. L'avantage est en effet d'avoir autour de la table des représentants des parents d'élèves, des représentants des personnels enseignants, des collectivités territoriales, donc communes, conseil général par rapport au transport. Réellement, c'est très constructif. Et nos partenaires de la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations accompagnent également beaucoup les communes sur la mise en place de projets éducatifs territoriaux.
Oui, oui, il y a un gros boulot de faire. Puis qu'il reste encore à faire pour les autres écoles qui vont rentrer.
Tout à fait. Et ce qu'il faut bien savoir, en effet, c'est que nous, on nous propose des organisations du temps scolaire pour 3 ans, mais il est possible, une commune qui souhaite revoir son organisation en se disant, bon, elle n'est pas adaptée pour telle ou telle raison, de nous proposer une nouvelle organisation.
Ça reste très souple.
Oui, tout à fait.
D'accord.
Voilà, il n'en manquera pas la rentrée prochaine de se renseigner un peu sur toutes les communes lausériennes, comment elles ont mis en place cette réforme, comment ça se passe, et d'en parler. Merci beaucoup à tout le monde d'être venu pour discuter de ce sujet un peu sensible, mais bien intéressant et compliqué. On espère qu'on vous aura éclairé un peu sur certains points. Et on reviendra dessus de toute façon régulièrement, du moins.
Voilà, c'était un spécial éducation. Bon, on aime bien faire des petits magazines comme ça, spéciaux. Je pense que c'est important aussi que nos concitoyens aient des informations beaucoup plus importantes, beaucoup plus plurielles aussi, de différentes voix pour se faire un avis qui n'est pas forcément positif ou négatif, qui peut être aussi constante évolution. En tout cas, dans ce magazine, c'est ce qu'on essaye de faire, de donner la parole un petit peu à tout le monde. Après, bien sûr, tout le monde a son avis, mais je pense qu'il faut se donner les moyens de réfléchir et de voir l'intérêt de l'enfant aujourd'hui. Après, l'intérêt de l'enseignant, bien sûr, et des parents. Tout ça, c'est un tout. Voilà. Mais on espère y avoir répondu. Merci, Ludo.
Allez, merci à toi, Nico.
Merci à tous.
Merci à vous. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.